Le patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gosse.
Bienvenue à la
si
complainte du
de
travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gosse, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour et bienvenue à La Complainte du Travail, l'émission d'Illusion Emploi. Aujourd'hui, ça va être animé par Sandy Tremblay.
Bonjour et Roxane Deléger.
Bonjour. Aujourd'hui, le thème, ça va être les programmes et les mesures de l'assurance emploi. Peut-être que je vais te voler le punch, Sandy, mais l'assurance emploi, c'est ce qu'on appelle communément le chômage.
Et oui, alors aujourd'hui, on va chevaucher les deux thèmes parce que dans l'expression courante, les gens parlent beaucoup plus souvent de chômage. Mais le terme actuel, même s'il change de nom à tous les 2-3 ans, c'est l'assurance-emploi. Alors, mêlez-vous pas, si on vous parle d'assurance-emploi ou de chômage, c'est la même affaire.
Est-ce que tu peux nous faire un rappel du principe du chômage?
Oui, en fait, c'est très simple. La question de l'assurance-emploi puis du chômage, là, au fond, c'est la même chose, ça vient reconnaître le droit à un revenu minimum. Hein? On a parlé à plusieurs reprises dans les émissions précédentes du FIDES, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Et à l'intérieur de ce pacte-là, on le dit à plusieurs reprises, je m'entends en écho, j'espère que c'est correct pour les auditeurs et les auditrices. On essaiera d'arranger ça à la pause, au pire. Mais le principe du PIDES, c'est que ça vient reconnaître le droit, plusieurs droits, le droit à l'éducation, à la santé, mais entre autres à un revenu décent. Et pour satisfaire ce droit-là à tous les citoyens et les citoyennes, c'est, entre autres, en offrant un revenu aux gens qui ont perdu leur emploi. Alors, l'assurance-emploi, c'est un petit peu ça, sa philosophie. Quand une personne perd son emploi, on va lui donner un revenu qui n'est pas 100%, c'est pas une couverture à 100% des revenus que la personne avait lorsqu'elle était au travail, mais ça va venir compenser la perte de revenus le temps de se trouver un nouvel emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment eu un changement de philosophie à travers les années. À l'origine de sa création, puis on va y revenir tout à l'heure dans l'historique, le principe de base, l'État reconnaissait son devoir dans la création d'emplois. Est-ce qu'on devrait passer à une musique? On va essayer de voir, parce que nous, on s'entend vraiment en écho. On va aller tout de suite en musique, si ça ne te dérange pas, Luc, notre technicien. On va te remercier beaucoup pour ça. On va essayer d'arranger l'écho, puis après ça, on va revenir, puis on poursuit sur la même question.
Facture, les deux yeux fermés bien durs.
Le chien, maudite pâte molle.
Comme des oursins, avec des fringues de ringard.
gagne déjà crasseuse, ça file sa carte à la pointeuse.
Alors, re-bienvenue à tous les auditeurs et auditrices. Alors, on a réglé notre problème d'écho. J'espère que vous appréciez la différence. Est-ce que ça va? OK. OK, là, je m'entends. Merci. Prise 3. Alors, on devrait avoir réglé le problème d'écho, le problème de micro. On devrait être bon pour faire une émission. Alors, bienvenue à la complainte du travail pour ceux et celles qui ne l'entendaient pas tout à fait bien tout à l'heure. Juste pour vous rappeler que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est la question de l'assurance-emploi, ce qu'on appelle communément le chômage. Je vous parlais tout à l'heure du changement de philosophie, que lors de la création de la loi, on prenait vraiment en considération, l'État prenait en considération son rôle dans la création d'emploi. Alors, la philosophie était de dire, si tu n'as pas d'emploi, c'est que le marché d'emploi n'a pas d'emploi pour toi, n'a pas de travail à t'offrir. Avec les années, on verra tout à l'heure que l'évolution, la philosophie a énormément changé et que maintenant, on responsabilise beaucoup la personne qui est sans emploi de sa situation. Le principe de cette assurance collective-là, de l'assurance-emploi, c'est que lorsque vous perdez votre emploi, on vous offre 55 % de votre salaire pendant un maximum de 40 semaines, où on va vous donner, bon, je vous ai dit tout à l'heure, oui, c'est 55 % de votre salaire. Évidemment, si vous faites 100 000 $ par année, on n'ira pas vous donner 55 % de ce montant-là. Le maximum qu'on peut vous offrir, c'est 440 par semaine. Mais ce n'est pas parfait, puis on verra tout à l'heure qu'on pourrait aller beaucoup plus haut que ça dans les offres, mais ça permet quand même aux gens d'avoir une petite couverture de leurs besoins essentiels le temps de se trouver un autre emploi.
Donc, l'assurance-emploi, ça évolue. Des fois, c'est pour le mieux, des fois, c'est pour le pire. Est-ce que tu peux nous faire la brève évolution, l'historique?
Alors, imaginez, ça existe depuis un peu plus de 40 ans sous la forme actuelle. Il y avait d'autres assurances collectives pour les travailleurs et travailleuses, mais depuis à peu près 40 ans, ça existe sous cette forme-là. Toutes les refontes de l'assurance-emploi qui ont eu lieu depuis 1971 ont été régressives, comme on pourrait dire. Donc, sont venues brimer les droits des travailleurs et des travailleuses. Et à la base, ce qui est important de savoir, c'est que, je vous disais tout à l'heure, on va couvrir une partie de votre salaire. Mais cet argent-là qu'on va vous donner, ce n'est pas l'État par le biais de l'impôt puis des taxes qui va vous redonner cet argent-là. C'est par le biais de vos cotisations. L'assurance-emploi, c'est tout travailleur et travailleuse, peu importe l'âge que vous avez, à partir du moment où vous effectuez une tâche dans un milieu de travail, que vous êtes reconnu, vous payez vos cotisations à l'assurance-emploi. C'est proportionnellement, si je ne me trompe pas, c'est autour de 1,36 $ par tranche de 100 $ que vous gagnez, qui va vous être retiré de votre paye, qui s'en va dans un compte qui est commun à tous les Québécois et Québécoises. Et quand un ou une d'entre nous perd son emploi, on pige à l'intérieur de ce qu'on appelle la caisse d'assurance-emploi pour couvrir les besoins essentiels de cette personne-là. Depuis 1971, on a vu que les critères d'admissibilité se sont énormément resserrés. Pour vous donner un exemple, en 1971, le seul critère d'admissibilité qu'il y avait, c'est pour être admissible à l'assurance-emploi, il fallait avoir travaillé 8 semaines dans un milieu de travail. C'est rien comparativement aux critères d'admissibilité qu'on a actuellement. L'autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que le gouvernement, il venait bonifier la caisse d'assurance-emploi. Il y avait toutes nos cotisations à nous, des travailleurs et des travailleuses, qui s'en allaient dans le compte. Et le gouvernement fédéral fournissait en 1971 50 % des revenus de la caisse d'assurance-emploi parce qu'il reconnaissait son rôle dans la création d'emplois. Ce montant-là est passé à 25 % en 1986, et à 0 % en 1990. Ça veut dire que maintenant, ce n'est vraiment que les travailleurs et les travailleuses qui cotisent à l'assurance-emploi. Est-ce que tout le monde a accès, selon toi, Roxane, à l'assurance-emploi?
Non, selon moi, non.
OK. On part du principe de base que tous les travailleurs et travailleuses cotisent à l'assurance-emploi, mais les études démontrent que seulement environ 40 % des gens qui cotisent, qui ont droit. Alors, on cotise tous, mais ça ne veut pas dire qu'on va y avoir accès. Et pourtant, la raison pour laquelle on n'a pas accès, c'est que les critères d'admissibilité sont trop élevés, puis ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais il faut vraiment prendre en considération le fait que la Caisse accumule des surplus à chaque année. Même malgré le fait que le fédéral ne fournit plus d'argent dans la Caisse, on est rendu à un surplus de 58 milliards de dollars dans la Caisse d'assurance-emploi. Et pourtant, on continue à empêcher des gens d'y avoir accès, des gens qui ont cotisé tout au long de leur cheminement sur le marché du travail.
Et est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Est-ce qu'elle dort tout simplement? Est-ce que c'est de la spéculation?
C'est intéressant ce que tu dis là. Sans rentrer dans les détails, il faut savoir que à l'origine, la Caisse d'assurance-emploi, c'était quand le gouvernement du Canada faisait son bilan d'impôts à chaque année, là. C'était dans une caisse à part. Dans les années 90, on a réussi à récupérer cet argent-là et l'introduire dans la comptabilité régulière de l'ensemble du Canada. Donc, ce montant-là, ces revenus-là, sont, quand on fait le rapport d'impôt du gouvernement, parce que le gouvernement aussi doit faire des rapports d'impôt à chaque année, voir est-ce qu'on est en déficit, est-ce qu'on est en surplus ou quoi que ce soit, à l'intérieur même de son rapport d'impôt, ça va rentrer dans ses revenus, tout comme les taxes, les impôts, les autres couvertures, puis ça va être un petit peu camouflé dans toutes les dépenses du gouvernement, donc les routes, la santé et autres choses. Alors, le gouvernement, là, évidemment, il y a beaucoup de groupes qui font la défense des droits des gens à l'assurance-emploi, qui surveillent le calcul, qui font le suivi, à savoir, bon, on est en surplus, cette année, on a dû avoir des surplus de l'ordre de, etc., là, je n'ai pas les montants à vous donner. Mais à chaque année, le gouvernement aimerait donc bien rapatrier cet argent-là et prendre cet argent-là pour éponger notre déficit, éponger des frais dans le niveau de la santé, pouvoir prendre cet argent-là puis en refaire autre chose. Mais à partir du moment où on prend en considération que c'est les travailleurs et les travailleuses qui ont cotisé, c'est pas comme les impôts où c'est proportionnellement aux revenus, alors non, on peut pas faire ce qu'on veut avec la Caisse d'assurance-emploi, mais il faut, en tant que citoyen et citoyenne, rester vigilant à ça, parce que dès qu'on va baisser les gardes, le gouvernement risque de prendre cet argent-là puis en faire autre chose. Fait qu'il faut rester vigilant.
Depuis tout à l'heure, on dit tous les travailleurs et travailleuses. Par contre, juste une petite parenthèse, si on est travailleurs autonomes, on ne cotise pas à l'assurance-emploi.
Non, merci beaucoup, Roxane. C'est un très bon commentaire. Tu as totalement raison. Les travailleurs autonomes ne cotisent pas à l'assurance-emploi. Et même s'ils appellent pour cotiser volontairement, ne pourront pas cotiser. C'est vraiment un régime qui est privilégié aux salariés. Donc, si vous êtes travailleur autonome, vous ne cotisez pas puis vous n'y avez pas droit.
On pourrait enchaîner avec les critères d'admissibilité, puisqu'on est justement en train de parler un petit peu de ça.
Oui. Alors, on va expliquer les critères d'admissibilité. Ça vient vraiment expliquer pourquoi on a des surplus de 58 milliards de dollars. OK? Alors, premier critère. Vous voulez faire une demande d'assurance-emploi. On va vous demander pour quelle raison vous n'avez plus d'emploi. ne vous avisez pas d'avoir démissionné ou quitté volontairement, ce qu'on pourrait appeler quitter volontairement votre emploi, parce que l'assurance-emploi ne reconnaît que les bons chômeurs. Alors, quelqu'un qui est extrêmement malheureux dans son milieu de travail, qui décide de le quitter, mais qui n'a pas rien d'autre qui s'en vient, va se faire refuser le droit à l'assurance-emploi. Pourtant, on se rappelle des surplus de 58 milliards de dollars. Alors, vous avez le droit, même à faire, si vous faites congédier, mais parce que vous avez commis un vol ou quoi que ce soit, ou vous avez commis ce qu'on appelle une faute grave, soit que vous ne vous qualifierez pas, ou tout dépendant de l'agent qui va traiter votre dossier, vous allez vous qualifier, mais on va vous pénaliser de quelques semaines ou du montant. Au lieu d'en 55%, vous allez avoir un plus petit montant, ou c'est souvent un nombre de semaines, ça tourne autour de 6 semaines de pénalité qu'on va vous enlever. Par contre, je veux faire une rectification. C'est vrai, et c'est totalement vrai, que si vous quittez volontairement un emploi, vous n'avez pas accès à l'assurance-emploi. Par contre, si vous êtes capable de démontrer que vous n'aviez pour votre survie pas le choix de quitter votre emploi, par exemple, du harcèlement psychologique, vous vivez du harcèlement, vous pouvez quitter votre emploi puis essayer de faire valoir que, écoutez, démontrer que vous viviez du harcèlement puis on devrait vous reconnaître le droit à l'assurance-emploi. Mais ça ne se fera pas demain matin. Faut que vous le fassiez. Vous avez avantage à téléphoner à Illusion Emploi ou téléphoner au MCCE, téléphoner à Illusion Emploi, on va vous donner le numéro. Le MCCE, c'est le mouvement des chômeurs et chômeuses de l'Estrie qui vont pouvoir vous accompagner afin que vous soyez habilité à faire reconnaître le harcèlement dont vous avez été victime. Alors, si vous jugez que vous avez démissionné, mais pour des raisons qui étaient hors de votre contrôle, ça vaut la peine de faire tout de même une demande. Ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Autre critère, on va aussi vous demander combien d'heures vous avez travaillé dans les 52 dernières années. Pour une première demande d'assurance-emploi, on va vous demander d'avoir travaillé environ 950 heures. Et ça va dépendre de la région dans laquelle vous résidez. Si vous habitez dans une région où le taux de chômage est très élevé, on va vous demander un moins grand nombre d'heures. On va peut-être vous en demander pour une première demande autour de 800-850, parce qu'on évalue que ça va être plus difficile pour vous de vous trouver un emploi parce que le taux de chômage de votre région est très important.
Et si j'habite à Sherbrooke et que je travaille à l'extérieur, ça va être quel taux? Est-ce que ça va être le nombre d'heures de la ville où est-ce que je travaille ou le nombre d'heures de la ville où est-ce que j'habite?
C'est le nombre d'heures de la ville dans laquelle tu habites. Et ça, c'est intéressant comme commentaire parce que, et on l'a déjà dit l'an passé, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler, il y a des disparités de traitement importantes à l'assurance-emploi. Et entre autres, beaucoup de gens qui habitent Sherbrooke travaillent à Magog. Alors, on a vu dans un hôtel de la région de Magog qui a fermé ses portes, des travailleurs et des travailleuses de cet hôtel-là, les travailleurs ou les travailleuses qui habitaient à Magog avaient besoin d'un moins grand nombre d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi quand l'hôtel a fermé que ceux et celles qui habitaient à Sherbrooke. Donc, totale disparité de traitement. C'est le même emploi, le même nombre d'heures travaillées, mais il y en a qui vont avoir accès à l'assurance-emploi, d'autres pas. Ou il y en a qui vont être pénalisés au niveau du montant ou du nombre de semaines parce qu'ils habitent dans une région autre. Disparité de traitement, nous, on s'oppose à ça, mais totalement, là, ça devrait être le même traitement pour tous les travailleurs et travailleuses. On va aussi vous demander, quand vous faites une demande d'assurance-emploi, êtes-vous disponible à l'emploi? Donc, si vous travaillez à temps partiel, si vous travaillez à tremplin 30 heures, on va aussi s'assurer, est-ce que vous êtes disponible encore 30 heures de 8 à 5 ou dans les heures normales de travail? Ce critère-là vient enlever l'accessibilité à l'assurance-emploi à la plupart des étudiants et des étudiantes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est souvent les jeunes, on a l'impression, moi je suis étudiante, donc je n'ai pas accès à l'assurance-emploi. Il n'y a aucun critère qui fait en sorte, qui dit clairement, si vous êtes étudiante, vous n'avez pas accès à l'assurance-emploi. C'est le cumul de tout ça. Si on vous demande 950 heures pour une première demande à l'assurance-emploi, si vous êtes travailleur ou travailleuse à temps partiel, avant que vous arriviez à totaliser 950 heures par année, c'est difficile pour vous, donc vous ne vous qualifiez pas. Même chose pour la disponibilité. Vous allez au cégep 30 heures par semaine, c'est difficile pour vous de démontrer que vous êtes à l'emploi. Alors, que vous êtes disponible à l'emploi 30 heures par semaine, alors là, on va vous pénaliser. Mais ce n'est pas parce que vous êtes étudiant ou étudiante. C'est les autres critères qui font en sorte que votre statut d'étudiant ou étudiante vous empêche d'y avoir droit. Il faut aussi savoir, je vous ai dit, c'est un maximum de 40 semaines qui est alloué à l'assurance-emploi, mais en réalité, les études démontrent que le nombre de semaines en moyenne qui est alloué est de 23 semaines. Et c'est vraiment très court pour se qualifier à l'assurance-emploi. Et il faut aussi savoir que les deux premières semaines de paie ne vous seront jamais redonnées. Alors, les deux premières semaines où vous perdez votre emploi, vous n'avez aucun revenu Et j'ai souvent l'impression que ce qui est en arrière de ça, c'est qu'on dit les gens qui n'ont pas assez d'argent, mais ils vont accepter n'importe quoi. C'est quand tu n'as pas les moyens d'avoir deux semaines pas de revenus, ben tu vas te retourner de bord, tu vas prendre ce qui passe. Puis là, oups, la personne, elle a un emploi, elle n'a plus besoin d'assurance-emploi. Et ça fait bien l'affaire des gens qui gèrent, le gouvernement qui gère la caisse d'assurance-emploi. Mais c'est inconcevable que, avec des surplus de 58 milliards de dollars, on n'assouplisse pas les critères d'admissibilité pour permettre au plus grand nombre de gens possible d'y avoir accès. Très dommage.
C'est très dommage. J'ai aussi également, le temps passe vite, je regarde ça. Il y a beaucoup de critiques aussi, comme on disait, il faut démontrer qu'on est à la recherche d'emploi. Je crois que tu as un certain temps.
Oui, en fait, tu fais référence à ce qu'on disait tout à l'heure à l'extérieur des ondes. En fait, le pourquoi tout à l'heure on se disait ça, c'est imaginez-vous que vous êtes professeur, que vous êtes technicien informatique ou quoi que ce soit, vous gagnez un excellent salaire, vous avez de bonnes conditions de travail. On ne vous demandera pas demain matin de vous mettre à la recherche d'un emploi puis d'accepter d'aller passer des entrevues dans un supermarché ou quelque chose qui n'est totalement pas en lien avec votre expertise. Par contre, au bout de quelques semaines, quelques mois, là, on va vous mettre de la pression sous peine de vous pénaliser à l'assurance-emploi. Okay? Alors, vous devez toujours démontrer tout au long du temps que vous recevez des prestations, que vous êtes actif dans votre recherche d'emploi. J'ai envoyé des CV, j'ai passé des entrevues. On va vous demander par quel moyen te contacter. C'est-tu par Internet, par téléphone, c'est-tu présenté? C'est assez serré. Et il y a toute la question également des mesures d'employabilité. Illusion emploi, c'est un peu pour ça qu'on s'est mis sur pied dans les années 90. C'était pour dénoncer ces fameuses mesures d'employabilité. Expliquons premièrement un petit peu ce que c'est qu'une mesure d'employabilité. Imaginez que vous êtes sans travail et qu'on va vous envoyer dans un milieu de travail ou dans une formation scolaire ou dans un organisme communautaire, ce qui est un milieu de travail aussi, là, on s'entend, pour effectuer une prestation de travail. On peut vous envoyer dans un supermarché pour placer des choses sur les étagères, dans un organisme communautaire pour couper des carottes, un peu partout. Ça peut être aussi dans une formation. Et en contrepartie, vous allez être qualifié... Si vous vous qualifiez pour cette mesure d'employabilité-là, on va vous offrir un supplément sur votre chèque d'assurance-emploi. C'est un peu le principe de base d'une mesure d'employabilité. Alors ça, c'est pour vous expliquer un petit peu c'est quoi. Ce qu'il faut aussi, ce sera pas long, je suis juste à la recherche de ma petite feuille. OK. Ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est le fait, nous, pourquoi on est un petit peu à l'encontre des mesures d'employabilité, c'est très simple, c'est qu'on considère que c'est une subvention aux entreprises ou aux organismes qui est payée à même les cotisations d'assurance-emploi. Vous vous rappelez tout à l'heure, je l'ai dit, le gouvernement fédéral n'offre plus un sou dans la caisse d'assurance-emploi. Pourtant, l'entreprise qui vous reçoit dans le milieu de travail, elle, là, on va lui offrir de payer l'ensemble de la masse salariale. Donc, on vous envoie une personne qui est au chômage dans votre milieu de travail. En contrepartie, vous n'avez aucun salaire à lui verser. Dans la plupart des mesures d'employabilité, à l'exception de deux, dont la subvention salariale ciblée, la personne n'est pas couverte par les différentes lois du travail, donc pas de congé maladie, pas le droit à la couverture du salaire minimum. Hein. La prime qu'on vous donne sur votre chèque ne correspond pas à l'équivalent du salaire minimum. Alors, on maintient les gens dans la pauvreté, on donne une subvention à l'entreprise ou à l'organisme communautaire qui accueille la personne, puis en contrepartie, l'entreprise n'a même pas l'obligation d'engager la personne à la fin de sa mesure d'employabilité. Alors ça, nous, on dénonce ça, mais de vive voix. L'autre question également qu'on dénonce, c'est le fait que la mesure, elle est volontaire. Okay? On ne va pas vous pénaliser si vous dites, ben moi, je n'ai pas envie d'aller faire telle ou telle mesure. Par contre, il faut quand même prendre en considération, le montant qu'on vous donne est tellement minime à l'assurance-emploi pour les personnes. 55% du revenu, c'est quand même pas beaucoup. Si vous gagnez le salaire minimum, 55% du salaire minimum, vous êtes loin d'atteindre le seuil de faible revenu. On s'entend-tu? Vous ne l'atteignez pas quand vous étiez sur le marché du travail. Vous ne l'atteignez certainement pas avec le chômage. Résultat, oui, la mesure, elle est volontaire, mais les gens, c'est une question de survie. Hein, c'est pour être capable de manger, d'arriver à faire les petits paiements les plus prioritaires que les gens vont accepter de faire des mesures. Alors là, nous, on dit la question de volontariat, oui, OK, c'est volontaire, mais jusqu'à quel point? La personne, elle n'a pas le choix si elle veut réussir à manger convenablement. Puis encore faut-il que ce soit ça qu'elle puisse se permettre de faire et que ce ne soit pas son loyer sous peine d'être expulsée de son appartement. L'autre chose, OK, c'est difficile à expliquer comme ça, là, mais on critique également le fait que on va... ce sera pas long, je suis un petit peu tout perdue, mais je vais revenir. OK, tout le monde n'a pas accès. Il y a des critères... Tu me fais ça vite, toi. Il y a des critères d'admissibilité pour les mesures d'employabilité. Hein. Si vous voulez avoir accès à une mesure, on va vérifier est-ce que vous êtes admissible. Avez-vous entre tel âge et tel âge? Est-ce que ça fait tant de semaines que vous êtes à l'assurance-emploi, etc.? Mais il faut se rappeler que toutes les subventions qui sont données aux entreprises sont payées à même vos cotisations. C'est vous, en tant que travailleur, lorsque vous étiez sur le marché du travail, qui avez cotisé à ces mesures-là, vous payez... si on peut expliquer ça comme ça, l'imager, c'est vous-même qui donnez la subvention à l'entreprise, vous l'avez payé à même vos cotisations lorsque vous travaillez, mais en contrepartie, si vous ne correspondez pas aux critères d'admissibilité de la mesure, on ne va même pas vous la donner. Alors, nous, à Illusion Emploi, on s'oppose aux mesures d'employabilité parce que les études ont démontré qu'à long terme, ça ne permettait pas aux gens de se trouver de l'emploi, parce que l'entreprise qui a bénéficié d'une mesure d'employabilité va, bien, dans bien des cas, préférer... mettre la ne pas engager la personne et prendre une nouvelle personne avec une mesure d'employabilité pour pas n'avoir, pour avoir aucune masse salariale à payer. Alors, ça ne permet pas aux gens de se trouver de l'emploi. C'est une subvention qui est payée à même les cotisations des travailleurs et des travailleuses. Donc, ça, on s'est dénoncé. Et en plus, les gens qui voudraient y avoir accès pour essayer d'augmenter un petit peu leurs conditions de vie, bien, bien souvent, ils n'arrivent pas à se qualifier, puis pourtant, c'est eux qui l'ont payé à même leurs cotisations. Ça, c'est les choses qu'on dénonce au niveau des mesures d'employabilité. Ce qu'on dénonce au niveau de l'assurance-emploi, et on va se quitter là-dessus parce qu'on me fait des grands signes comme quoi ça l'achève, c'est le nombre d'heures pour se qualifier est beaucoup trop élevé. Donc, on demande au gouvernement de ramener ce montant-là et de faire en sorte que toute personne qui a travaillé 350 heures dans une année ait accès à l'assurance-emploi. Qu'on rehausse le montant des prestations à 60 % du salaire. Ça a déjà été le cas. Ça a déjà été plus élevé que ça également dans les années 70-80. Qu'il y ait un minimum de 35 semaines de prestations qui soient offertes aux gens. Alors, on enlève la moyenne de 23 semaines. C'est tout le monde minimum 35 semaines, à moins que vous trouviez un emploi entre-temps et c'est ce qu'on vous souhaite. Et qu'on abolisse toute exclusion, parce que beaucoup de gens qui, pour un prétexte ou pour un autre, vont être pénalisés de 6 semaines de prestations. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces pénalités-là s'en aillent. Alors, c'est les revendications qui sont portées par les mouvements de chômeurs et chômeuses. C'est des revendications qu'ils ont emploi appui. Alors, on vous fait souvent part de nos revendications, mais soyez attentifs, on va sûrement vous reparler dans les mois qui vont suivre de campagnes en lien avec ces mesures-là, pour faire des pressions sur le gouvernement fédéral pour bonifier le programme d'assurance-emploi. Sur ce, j'ai bien compris qu'il fallait qu'on vous quitte. Alors, on vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Roxane, c'est quoi notre sujet?
Ça va être la dernière émission. Ça va être sur un plan de lutte à la pauvreté. Il y a eu un événement le 7 décembre. On va vous en parler, des consultations régionales avec le ministre Sam Ahmad.
Oui. Alors, soyez là la semaine prochaine, 9h30, même poste. Bonne semaine.